Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 17. On va lire le chapitre en le fractionnant parce qu'il est long, mais on va prendre le temps de le lire. Si on n'a pas fini ce matin, on continuera ce soir. Si on n'a pas fini ce soir, on prolongera la mission après. Moi, je suis en retraite, il n'y a pas de souci. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azekah à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Puis là, il y a une répétition. Les deux versets qui suivent, en tout cas le verset 12, est une répétition de ce qu'on a au chapitre 16, parce que c'est une autre phase de la vie de David qui s'ouvre. Chapitre 16, c'était la vie secrète, maintenant ça va être la vie publique qui va le propulser tranquillement vers le trône, et ce n'est pas une répétition superflue. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils, qui était parti pour la guerre, s'appelait Éliab, le second Abinadab, et le troisième Shammah. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül, et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Cet aller-retour fait partie de l'école de Dieu. Entre ce que nous avons médité depuis vendredi soir jusqu'à ce matin, il y a eu quelque chose que nous avons laissé de côté, faute de temps. Mais après l'onction, David est introduit comme musicien privé du roi Saül. Et lorsque le mauvais esprit saisit Saül, David joue de la harpe et il joue avec l'onction. Il y a une musique qui peut amener l'enfer sur les gens et puis il y a une musique qui apaise. Tout dépend du musicien, de ce qui le revêt et de ce qui l'anime. Donc David a été un certain temps musicien à la cour du roi. Ce n'est pas rien, c'est autre chose que les brebis dans les champs. Puis la guerre éclate avec les Philistins, Isaïe doit envoyer ses 3 fils aînés à la guerre, et du coup, David est rappelé chez Isaïe son père pour faire paître les brebis. Il décroche de la cour royale, de son statut de musicien privé du roi pour paître à nouveau les brebis. Le Seigneur est celui qui nous fait monter, et quand ça lui plaît, il est celui qui nous fait descendre. Il ne faut pas que nous nous enorgueillissions quand nous montons, et il ne faut pas que nous nous découragions quand nous descendons. Si nous montons dans la main de Dieu, c'est parfait. Si nous descendons dans la main de Dieu, c'est parfait. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas une marche rétrograde, mais je pense que le fait de l'avoir ramené à la cour du roi, puis de le ramener tranquillement derrière les brebis, ça fait partie de l'école de Dieu. Dieu le fait décanter tranquillement, il le prépare pour être le futur roi. Verset 15, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. On va lire la suite, mais j'aimerais que nous nous recueillions et que nous prions quelques instants le Seigneur ensemble. Avant de parler de l'onction qui a reposé sur David, nous nous sommes attachés à découvrir Christ dans le chapitre 16 du premier livre de Samuel. Ce matin, en ce qui concerne la bataille contre Goliath, ce n'est pas de David dont j'aimerais vous parler, mais de Jésus. Il apparaît d'une manière formidable dans ce chapitre 17, comme le chapitre 16 était rempli de Christ. Le chapitre 17 l'est aussi. Pourquoi commencer par ça? Parce que nous ne pourrons comprendre la victoire de David sur Goliath ce soir que si nous comprenons que notre victoire est dans le Christ et que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes l'exploit de vaincre le Goliath spirituel qu'est Satan si le Christ, qui d'abord lui l'a vaincu, ne vit en nous. Nous ne sommes vainqueurs que par lui. C'est au travers de Christ que se vit toute notre vie chrétienne et c'est au travers de Jésus que nous triomphions. Que nous triomphons, béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alors nous avons ici, vous allez le découvrir avec moi, prophétiquement, en type, la carrière et l'activité de Jésus. Dès son début, vous allez le voir, jusqu'à son résultat final et définitif. Dans ce chapitre 17, dans le conflit de David contre Goliath, c'est toute l'histoire de Jésus, vainqueur de Satan, qui est résumée là en quelques versets. Je reprends maintenant la lecture au verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères, cet épha de grains rôtis et ses 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » La première chose que je découvre ici en David, type de Christ, c'est qu'il est l'envoyé du Père auprès de ses frères. Et vous remarquez que le service public, parce que jusqu'alors c'était un service privé dans le secret, dans les champs, le service public de David ne va pas commencer par la victoire éclatante sur Goliath, mais elle commence par le fait d'être l'envoyé de son père auprès de ses frères. Il y va pour s'informer de leur état, s'informer de leur santé, et je le répète, c'est par ses frères que commence le service de David. Le ministère de Jésus a commencé de la même manière. Il a été l'envoyé du Père auprès de ses frères. Et dans le prologue de l'évangile de Jean, nous avons cette réalité. Jésus étant appelé la lumière, il est dit, elle est venue chez les siens. Le service de Christ a commencé auprès de ses frères. Quand l'apôtre Pierre a prêché l'évangile aux Juifs, après le miracle dans le corps du boiteux de la belle porte du temple, il termine sa prédication en disant aux Juifs, « C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Pierre était conscient que Jésus a d'abord été l'envoyé du Père auprès de ses frères. L'apôtre Paul écrira beaucoup plus tard dans sa lettre aux Romains, « Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en accomplissant les promesses faites au Père. » Paul était aussi conscient que Jésus avait été l'envoyé du Père auprès de ses frères. Quand la Syro-Phénicienne, donc une étrangère, vient implorer le Seigneur pour sa fille cruellement tourmentée par le démon, elle invoque Jésus sur un terrain qui n'est pas possible à elle d'invoquer le Seigneur. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Mais elle ne peut pas revendiquer ça à elle, fils de David, c'est une étrangère, c'est une Syro-Phénicienne. Et le Seigneur va tranquillement lui faire comprendre qu'il est l'envoyé du Père auprès de ses frères et que la grâce finira par atteindre les païens. Mais c'est la grâce de Dieu qui englobe le monde. Et c'est pourquoi quand les disciples disent « Mais écoute, fais-lui grâce », parce que c'est ça que ça veut dire, hein, c'est pas « renvoie-la », c'est « fais-lui grâce » et elle crie derrière nous. Jésus répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il est d'abord venu comme l'envoyé du Père auprès de ses frères. Et quand le Seigneur confie le ministère à ses apôtres, il y a une première délégation dans le chapitre 10 de Matthieu. Les paroles de Jésus peuvent être étonnantes au premier abord, mais il leur dit « N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villages des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Nous avons ça ici prophétiquement. David va vers ses frères. La seconde chose, c'est que la délivrance que Dieu va opérer par le moyen de David va être bien évidemment plus étendue que le secours qu'il apportera à ses frères. Elle va s'étendre bien au-delà de ce cercle restreint familial. En triomphant de Goliath, non seulement David secourt ses frères, mais il va secourir tout un peuple. Et rappelez-vous, il en est ainsi pour Joseph. D'ailleurs, la comparaison est assez intéressante. Les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit « Me voici ». C'est le « Me voici » de Christ, qui l'a dit un jour dans les lieux célestes. Israël lui dit « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Il est allé vers ses frères. La suite, ce n'est pas comparable avec celle de David. Mais il s'est mis en route là tout le plan de Dieu pour Joseph, dans la citerne, vendu aux Ismaélites, descendu en prison injustement, il y a là tout le brisement, toute l'école de Dieu, et un jour il règne, il va sauver ses frères. Mais au-delà de ses frères, il sauve l'Égypte et il sauve les nations d'alentour. Le cercle de la délivrance est bien plus étendu, et avec David c'est la même chose. La délivrance ne va pas se limiter à ses frères, mais aura une étendue glorieuse. Jésus a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et juste avant l'ascension, il dit à ses disciples, auxquels il avait dit, n'allez pas vers les païens, maintenant la croix a eu lieu. Et il leur dit, allez par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Juste avant l'ascension encore, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Ben oui, ça part de là. dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le prophète Ésaïe avait annoncé le rayonnement du Messie. « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités du monde. » Je lis le verset 20. David laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Nous allons découvrir là le ministère triomphant, un rappel du ministère triomphant de David dans le désert. Pour l'heure, David part pour sa mission. Il obéit à son père. Il partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Et dans l'évangile de Jean, nous entendons cette parole de Jésus : « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quelle parole de Jésus lorsque dans le ciel il a dit au Père : « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit : voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il était l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, et un jour dans le ciel, il a dit : « Je vais partir comme tu me l'as ordonné. » Et en participant tout à l'heure à la Sainte Cène, nous nous souviendrons avec un cœur rempli de reconnaissance, de louange et d'adoration, qu'un jour Jésus est parti, et il est parti pour nous, il est parti vers nous, comme le Père le lui avait ordonné. Nous l'avons médité dans les réunions précédentes. David avait déjà exercé un ministère secret dans le désert. Et là, il gardait les brebis de son père. Nous l'avons dit hier soir, dans le secret, sous le regard du Seigneur, David a appris la victoire sur le lion. Il a appris la victoire sur l'ours. Et avant d'entrer en lutte avec le Philistin de manière publique aux yeux de tout un peuple, il avait opéré la délivrance des brebis de son père quand l'ennemi cherchait à les ravir et à les dévorer. Eh bien, je crois que David est là en type une image magnifique du Seigneur Jésus. Avant la grande victoire sur celui que j'appellerai ce matin le Goliath de l'enfer, Satan lui-même. Avant cela, Christ avait déjà lié l'homme fort. Avant la croix, où il y aura là l'assaut final contre l'enfer, Jésus a exercé un ministère privé dans le désert. Quand le diable est venu le tenter au tout début de son ministère, à trois reprises, permettez-moi de le dire comme ça, Jésus a dégainé l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et là, dans le secret, dans le désert, Jésus a déjà vaincu Satan lors de la triple tentation. Au cours de sa vie, son ministère de délivrance a éclaté partout. On lui amène un démoniaque aveugle et muet. Jésus chasse le démon. Le muet se met à parler et à entendre. Et un petit peu plus loin, alors qu'il y a une conversation assez musclée avec les chefs religieux, Jésus dit : « Mais comment un homme peut-il entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir auparavant lié cet homme fort ? » Il voulait leur montrer par là que c'est ce qu'il venait de faire. Jésus, dans son ministère, a lié l'homme fort. Il entre dans une synagogue, il enseigne, puis ses yeux se portent sur une petite femme, courbée en deux, depuis des années. Elle ne peut pas se redresser, ça fait 18 ans qu'elle est comme ça. Et le Seigneur voit cette femme, il en a pitié, il est rempli de compassion, et lui adresse une parole de délivrance. Il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Après seulement, il lui impose les mains. La position des mains en elle-même a besoin, je crois, d'être recadrée dans nos façons de faire. Il est indispensable que les gens qui viennent reçoivent une parole de Dieu. Il faut qu'ils sachent pourquoi il y a l'imposition des mains et ce en qui ou ce en quoi on se confie. Avant de lui imposer les mains, Jésus lui a adressé une parole de délivrance. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Elle ne l'est pas encore. Il ne lui a pas encore imposé les mains. Mais pour lui, c'est déjà fait, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et à ce moment-là, c'est à celui qui est lié, infirme, en mauvais état, de croire la parole de Dieu. La parole de Dieu ayant résonné dans le cœur de cette femme, Jésus lui impose les mains et elle se redresse. Gloire au Seigneur. Après 18 ans, le chef de la synagogue grince des dents, c'est leur habitude. Et Jésus dit, mais écoute, ne fallait-il pas délivrer cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Jésus est venu délivrer. Rappelez-vous, quand dans la synagogue, là, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe, qu'il l'a déroulé et qu'il lit le chapitre 61, il tombe sur le texte où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Là, tout au long de son ministère, Jésus a triomphé de Satan. David, dans les champs, a été celui qui a porté aux brebis de son père sa protection. Avec David, aucune des brebis que son père lui avait données n'a été perdue. Et il en est ainsi avec notre Seigneur Jésus. Dans la prière qu'il adresse au Père dans Jean 17, il dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Quand on vient l'arrêter à Gethsémané, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. La traduction française laisse à désirer. Jésus n'a pas dit « c'est moi », il a dit « je suis ». Il s'affirme comme Dieu, comme le Fils de Dieu. Il parle comme Dieu dans Exode 3, « je suis ». Et à ce moment-là, ses ennemis reculent et tombent par terre. Et une deuxième fois, « mais qui cherchez-vous ? Jésus de Nazareth. Alors si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Et il est précisé, il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite, « je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Voilà qui est votre Jésus. Voilà qui est mon Jésus, notre Jésus ce matin. C'est celui qui, dans son ministère, a été capable de garder les brebis de son père pour qu'aucune d'elles ne se perde. Ce matin, je peux me sentir faible, fragilisé, déstabilisé, bombardé de toutes sortes, de manière par l'ennemi de mon âme. Mais je dois me jeter dans le cœur de mon berger et lui dire, Seigneur, je crois que tu as fait cette promesse qui est vraie pour aujourd'hui. Personne ne peut me ravir de ta main et en toi, je connais une pleine sécurité. Nous savons bien qu'au-delà du désert, une plus grande mission attendait David, celle de mettre à terre Goliath. Et au-delà du ministère dans le désert, seul face à Satan, au-delà de son ministère public, tout au long de sa carrière terrestre, quelque chose de plus important encore attendait notre Seigneur Jésus. Il fallait anéantir la puissance de l'ennemi et il fallait anéantir l'ennemi lui-même. Avant d'y venir, j'attire votre attention sur le verset 20. Nous avons une quatrième pensée concernant Christ qui apparaît ici. David se leva de bon matin. Il a le caractère du vrai serviteur. Le vrai serviteur ne fait pas la grasse matinée, se faisant apporter le café avec les croissants vers 11h30 du matin. David se leva de bon matin. Christ est là, dans la personne de David. Il y est. Au premier chapitre de l'évangile de Marc, quand il faisait encore très sombre, Le soleil n'était pas encore levé et il se lève de bonne heure là-bas. Il se leva et alla dans un lieu désert où il pria. Je vais vous dire quelque chose. Les premiers moments de votre journée vont être le gouvernail de la journée. Il fallait ramasser la manne avant que le soleil se lève et la fasse fondre. Quand vous avez poussé la porte de la maison pour sortir, le diable vous attend déjà. Si vous n'avez pas rencontré le Seigneur avant, vous êtes en état d'infériorité et de faiblesse. David s'est levé de bon matin. Christ se levait de bonne heure. Il n'était pas question d'avoir un ministère public tant qu'il n'y avait pas une rencontre privée avec son Dieu. Et il est indispensable que chaque matin de bonne heure, nous nous enracinions dans le Christ, comme le sarment attaché au cep, que nous recevions la sève divine, que la vie de Christ coule en nous. Et alors nous allons commencer nos journées avec les pensées de Christ, avec les sentiments de Jésus, avec la joie de Jésus, avec la consolation de Jésus, avec la force de Jésus. Et nous pourrons dire comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Se leva de bon matin. Et puis, il a porté ce que son père lui a dit de porter, quoi. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Sa charge, c'était quoi? Un épha de grain rôti, 10 pains, 10 fromages. Il part vers ses frères pour accomplir la volonté de son père, mais il part vers ses frères avec de la nourriture. Ils sont en guerre. Et David est chargé de la part du Père de leur apporter de la nourriture. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il est venu de la part du Père alors que nous sommes en guerre. Et il est venu avec de la nourriture, et la nourriture c'est lui-même, il est le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. J'ai besoin de me nourrir de Jésus. Qu'est-ce qui va me donner la force dans la guerre dans laquelle je suis engagé tous les jours? Qu'est-ce qui va me donner de triompher, de faire de moi un conquérant? La nourriture de mon Père, c'est Christ, ma nourriture, ma vie. Si je me nourris de la communion de Jésus, je vais être fort. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. David arrive là, comme loin de l'Éternel, l'homme de l'Esprit, tout en gardant un service d'humilité parce qu'il vient des parcs de brebis. Jésus est oint au Jourdain, on en a parlé hier. Il va exercer le ministère de l'Esprit par excellence. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Mais il reste l'homme humble. Je suis doux et humble de cœur. Et il reste le berger. Je suis le bon berger. Alors on va poursuivre la lecture, ça devient intéressant, c'est pas que c'était pas intéressant jusque-là. Je veux dire, on arrive au cœur du sujet. Lorsqu'il arriva au camp, deuxième partie du verset 20, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien, des bagages, et il courut vers les rangs de l'armée. On sent un enthousiasme, on sent le gars qui n'a pas peur, quoi. Mais ce n'est pas de la témérité, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vantardise. C'est l'onction. C'est l'onction qu'il a reçue dans la maison du Père. Alors il court, là, vers les rangs de l'armée. Et aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, à partir du moment où il arrive là, avec ses frères, au milieu de ses frères, l'ennemi sort. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Courage, fuyons. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, il n'y en avait pas un pour relever le moral du peuple. Le climat défaitiste avait gagné tout le monde. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera celui qu'il tuera, Éliab. » Vous savez, l'homme qui a de la hauteur au milieu de ses frères. L'homme qui a de la taille, quoi, dans l'assemblée de ses frères. Celui que Dieu a rejeté, là, le premier. Heureusement qu'il n'est pas devenu roi, celui-là, écoutez ça. Éliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ?» C'est ce que certains diront à Jésus ou sous une forme, « Pourquoi es-tu descendu ?» Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Ce petit gars-là, qui fait la volonté du Père, qui n'a rien demandé. Il était dans les brebis, parmi les brebis. On l'appelle parce qu'il y a un sacrifice et puis voilà. Il est dans le courant prophétique, mais il ne demande rien. J'allais dire qu'il est victime du courant prophétique. Il arrive là, le prophète verse sa corne d'huile sur sa tête. Il va être le futur roi, on ne sait pas quand, mais il va être le futur roi. Et puis à un moment donné, il va à la cour du roi, musicien, il revient, il devient berger, son père lui confie une charge, il y va. Voilà, c'est tout. Il s'informe, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer le Philistin ? Mais c'est normal tout ça, écoutez l'autre. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Vous parlerez ce soir de vos souffrances quand vous voudrez faire la volonté du Seigneur. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Nous avons ici, symboliquement et en tout petit, les souffrances de Christ. Au moment où il est descendu, au moment où il va s'apprêter à faire le face-à-face, lui seul, j'ai été seul à fouler au pressoir, où il s'apprête seul à affronter notre Goliath, eh bien vous trouvez ses frères qui réagissent comme les frères de David. Il y a la fête des tabernacles à Jérusalem, il est en Galilée, et ses frères lui disent, mais va-t'en, pars d'ici, va en Judée. Qu'il voit tes œuvres là-bas. Lorsque quelqu'un désire paraître, il ne reste pas dans le secret. Et l'évangile a cette toute petite ligne, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les foules s'assemblent. Jésus s'occupe d'elles, il enseigne, il guérit les malades, ses proches arrivent pour se saisir de lui, et ses proches disent, il est hors de sens. Il a un merveilleux discours où il parle du berger, de la porte, du bon berger qui va donner sa vie. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre, c'est l'ordre qu'il a reçu du Père. Il est en train de nous parler de la croix, il est en train de nous parler de la résurrection. Et il y en a qui disent, mais il a un démon ce gars-là, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? Avant que David ne triomphe de Goliath, il a été laminé par ses frères. Laminé. On l'a jugé, mal jugé. On a mal évalué les sentiments de son cœur. Non, il n'y avait pas d'orgueil. Non, il n'y avait pas de malice. Non, il n'y avait pas de curiosité malsaine. Mais ce sentiment noble, d'une sainte indignation, il n'était pas possible que le peuple de Dieu reste sous la férule de Goliath. il n'était pas possible que cet homme-là nargue le peuple de Dieu un jour de plus. Il n'était pas possible qu'il lance un défi effronté comme il le faisait. Il fallait que ça se termine. Et il y avait ça qui bouillonnait dans le cœur de David, avec l'onction de Dieu, avec le courage de Dieu, au nom de Dieu, de relever le défi et de triompher. Et ça a été le cœur de Jésus. Mais comment est-ce que ses frères ont pu le juger de cette façon-là et les foules? Alors on va lire un petit peu plus loin. Je vais accélérer parce que le temps passe. Verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ben oui, qu'est-ce qu'il avait fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui. Il y a des moments, c'est bien de se détourner de certains, ça nous fait du bien. Ah oui, oui, je vous dis, c'est pour la santé physique, morale, psychologique, spirituelle, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Alors, je vous passe l'épisode, ça sera peut-être pour ce soir, où Saül veut lui faire enfiler son armure, ça devait être assez comique, là. Le jeune berger qui, d'un seul coup, se transforme en soldat et il n'arrive pas à marcher. Donc, quand on n'arrive pas à marcher, ça ne marche pas. Alors, on va lire un petit peu plus loin. On va lire à partir du verset 40. David prit en main son bâton. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. » Ça, c'est la foi. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, c'est pas dans le texte ça. Il la lança avec sa fronde, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Alléluia! Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin. Le géant est là, étendu, mort. Il se saisit de son épée, pas la sienne, David n'en a pas. Il a un bâton, un sac de berger, 4 pierres polies, parce qu'il n'y en a plus que 4. Il va prendre l'épée de Goliath. Et avec l'épée de Goliath, il va couper la tête du Philistin. Il va ramener ça devant le peuple et devant Saül. Il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. David, et c'est bien que nous voyons cela avant la Sainte Cène, est ici le vrai type de Christ. Car il représente notre Sauveur devant l'ennemi. Tout cela avait été prophétisé par la parole même de Dieu dans le Jardin d'Éden. Quand le Seigneur s'adresse au serpent, il lui dit « Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. » C'est Christ. « Celle-ci t'écrasera la tête. » et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la croix. Ça, c'était bien avant que Jésus vienne. Après que Jésus soit venu, vous entendez l'apôtre Jean écrire « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et avant la croix, alors que le Seigneur Jésus a envoyé les siens prêcher l'Évangile, quand ils reviennent en disant « Les démons même nous sont soumis en ton nom », Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et avant la croix, Jésus dira, alors que des Grecs sont venus là pour le voir, Jésus va dire « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Goliath avait une épée, et avec ça, il a tué. Et David va le tuer avec l'arme que Goliath se servait pour tuer. Il va mettre fin définitivement à Goliath par sa propre arme. Et là, il y a quelque chose de magnifique concernant Christ. Celui qui a la puissance de la mort, c'est Satan. Comment le fils de David allait-il mettre un terme à l'action terrible du Goliath spirituel qu'est Satan ? Par sa propre arme. Et l'épître aux Hébreux nous dit, par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, le diable. Et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il est mort comme un innocent. Il est mort comme le juste. Et dans sa mort, il triomphe de celui qui a la mort en sa possession. Il ressuscite pour notre justification. Il est resplendissant de gloire. Alors oui, nous allons nous souvenir de Jésus. Permettez-moi de vous dire que dans la Sainte Cène, il y a un passé, un présent et un avenir. Je ne sais pas si vous réalisez ça, les jeunes qui mettaient le chewing-gum d'un côté pour manger le pain de l'autre. Vous qui prenez la Sainte Cène, pas ici parce que vous êtes les meilleurs, les mains dans les poches. Qui c'est qui prie ? Ah, c'est celle-là. Mais c'est un temps de communion. Amen. De communion. Faites ceci en mémoire de moi, je me souviens de la croix. Le présent, ben je m'examine moi-même, c'est aujourd'hui ça. Et je discerne un deuxième corps, c'est le corps de Christ. Nous qui participons à un même pain, nous formons un même corps. C'est une communion verticale et horizontale, la Sainte Cène. Alors c'est le présent. L'avenir ? Mais faites ceci en mémoire de moi, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est l'avenir. Celui qui est venu va venir encore. Celui qui a été suscité est ressuscité. Et il va revenir. Il y a une espérance dans la Sainte Cène. C'est qu'au-delà de la croix, il y a le ciel. Au-delà de la croix, il y a le trône. Et nous marchons vers ça. Dans la Sainte Cène, je regarde en arrière, je regarde aujourd'hui, je regarde demain. Béni soit Dieu pour cela. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, comme David, aux yeux de tous, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et on comprend alors que sous la plume de Paul, le Saint-Esprit ait pu dire « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Du coup, les Philistins s'en vont. Et on comprend qu'ils ont dû se dépêcher vite fait, parce que si lui, il a triomphé du géant, là, nous, on ne va pas peser lourd. La défaite de Goliath est celle de tous les Philistins. La défaite de Satan, c'est la défaite de toutes ses troupes. La maladie, l'infirmité, le péché, l'esprit du monde. Le monde, comme son prince, est maintenant vaincu pour le chrétien. Dans la personne de Christ, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a des faux prophètes qui sont arrivés, ils vont déferler de plus en plus. Ils vont s'attaquer à Jésus, venu en chair. Mais nous avons besoin de réaliser que nous les avons vaincus, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je termine. Je ne sais pas si ça l'a motivé ou si ça n'aurait rien changé. Mais quand David est venu dire, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va ôter l'opprobre de dessus Israël? Que fera-t-on à cet homme-là? Le peuple lui a répondu trois choses. Un, il sera comblé de richesses. Deux, il va avoir une épouse. Trois, sa maison va être affranchie en Israël. Ben, je regarde le triomphe de la croix et je me dis que Jésus a eu cette triple récompense. Comblé de richesses, mais Paul parle dans son épître aux Éphésiens des richesses incompréhensibles de Christ. Une épouse. Mais dans l'avant-dernier chapitre de la Bible, l'Esprit de Dieu dit à Jean, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. En triomphant de Goliath, le Seigneur Jésus s'est acquis une épouse. C'est nous. Et ce matin, nous nous réjouissons de ce que nous sommes unis à lui. Nous sommes pour l'instant sa fiancée. Bientôt, la fiancée va être la femme de l'agneau. Ce sera les noces de l'agneau. Béni soit Dieu pour cela. Et la maison de son père a franchi. Mais j'entends l'épître aux Hébreux me dire, sa maison, c'est nous. J'entends le Christ dire, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. J'entends Paul, après m'avoir parlé de la loi de Dieu qui est spirituelle, mais qui nous condamne, parce que nous, on est des pauvres gens, incapables de la vivre. Après avoir parlé de la loi de péché dans sa vie, il dit, mais la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais quand Jésus a triomphé de notre Goliath, mais la maison de son Père a été affranchie, et nous sommes affranchis dans le Christ Jésus. Permettez 2 minutes la conclusion, parce qu'on va finir en beauté. On va finir en beauté. C'était rien, ça. La fin de l'histoire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au commencement, Goliath nargue. Mais à la fin, je lis ceci. Verset 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. David avait une tente. Quand il a triomphé de Goliath avec la tête et les armes, il est allé dans sa tente, et dans sa tente, il a mis là les signes de sa victoire. Eh bien, Jésus n'a pas la moindre des tentes. C'est un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Et après la croix, après le triomphe de la croix, Jésus est entré dans sa tente, dans ce tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. La Bible dit qu'il l'a traversé et il est allé jusque dans le lieu très saint. Il s'est assis à la droite de la majesté divine et il a porté là les marques du triomphe définitif sur le Goliath spirituel qu'est Satan. Il a emmené captive la captivité, nous dit la parole de Dieu. Étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Eh bien, nous disons au-delà de la Sainte Seine, béni soit Dieu, Seigneur. Amen. Tu es entré dans ta tente avec les signes de la victoire. Il y a eu un sauveur sur une croix, il y a maintenant un souverain sacrificateur dans le ciel. Pécheurs que nous étions, nous sommes sauvés par ta mort. Étant réconciliés, nous sommes sauvés par ta vie maintenant. À ton nom, Seigneur, soit toute la gloire. Oui, nous allons l'adorer. Oui, nous allons élever notre voix vers lui ce matin. N'allons pas nous taire. Nous allons élever notre voix, même si nous ne l'avons jamais fait, ou si nous l'avons fait depuis un certain temps, mais que nous nous sommes arrêtés. Oui, nous allons le glorifier. Il en est digne. Merveilleux Jésus. Amen. Ô Seigneur, nous te louons ce matin et nous te glorifions. de nous avoir donné un tel Seigneur, un tel Sauveur. Il est venu l'envoyé du Père, il est descendu vers ses frères, il est descendu vers tout un peuple, il est le Sauveur du monde entier, la victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Il a triomphé à la croix, il a triomphé dans sa résurrection, il a triomphé dans son ascension, il a triomphé dans sa glorification. Et ce matin, nous portons les regards vers lui. Nous le célébrons, nous le glorifions. À lui soit toute la gloire. Amen, amen, amen. Amen.